C'est depuis le vendredi dernier que le gouverneur de la ville, M. André Kimbuta, a procédé au lancement des travaux de reconstruction de l'Athénée d'Ingeringiri. Ce projet est le fruit du gouvernement chinois qui envisage construire 100 écoles primaires modernes en milieu rural en Afrique, dont 3 en RDC. Notre confrère Tati Mapoko s'est penché sur ce dossier. Il nous fait le point de la situation. Tati, bonjour.
Bonjour, Jody.
Alors, tu as passé un bon week-end?
Tout à fait, tout à fait.
Alors, Tati, avant toute chose, dites-nous, qu'est-ce qui a motivé l'exécutif provincial à porter son choix sur cette école aussi longtemps qu'il y a plusieurs écoles officielles à Kinshasa?
Jody, il faut noter que c'est d'abord pour des raisons historiques que les autorités de la ville province de Kinshasa ont ciblé l'Athénée d'Ingeringiri dans les cadres du partenariat sino-congolais, plus particulièrement dans son volet éducation. Comme vous l'aviez dit, ce projet est le du gouvernement chinois qui envisage construire 100 écoles primaires en milieu rural en Afrique, dont 3 en RDC, et l'Athénée de Ngiringiri, c'est l'école choisie par le gouvernement provincial de la ville de Kinshasa. Les deux autres écoles seront construites dans la province orientale. Pour revenir maintenant à votre question, il faut noter que l'Athénée de Ngiringiri est la toute première école primaire officielle de la ville province de Kinshasa, créée en 1955. C'est de cette façon-là que les autorités de la ville ont choisi cette école pour sa restauration. Depuis sa création, ce complexe éducatif composé de 4 écoles primaires n'a subi aucun travaux de restauration, comme c'est le cas de presque toutes les écoles publiques de la capitale. En fait, il faut signaler que presque toutes ces écoles se trouvent dans un état d'élaborement très avancé. Dans ces écoles, les élèves suivent les cours dans les conditions qui laissent à désirer, jeudi.
Oui, alors dans quel état s'est trouvée l'Athénée d'Ingeringiri avant les travaux de réhabilitation?
L'Athénée d'Ingeringiri se trouvait dans un état d'élaborement très avancé. Toiture délabrée, bâtiment vieux de plusieurs années. Dans cette école, les élèves suivaient les cours à même le sol. Bref, c'est dans des conditions inhumaines que les élèves suivaient les cours dans cette école vieille de plusieurs années qui n'attendait que s'écrouler. C'est ainsi que l'initiative est saluée par l'exécutif provincial parce que l'éducation figure dans son projet de société. Écoutons à ce sujet André Kimbuta. Il nous fait le point sur l'importance qu'il accorde à l'éducation au cours de son mandat.
La cérémonie de lancement officiel des travaux de construction de l'infrastructure scolaire des écoles primaires 1, 2, 3 et 4 de Ngiringiri de conduire a-t-il repris l'éducation au nombre de ses 7 axes prioritaires de son programme quinquennal. À cet effet, l'exécutif provincial de Kinshasa s'est fixé comme objectif l'amélioration des conditions d'études et de travail dans les écoles au travers de la construction et de la réhabilitation des infrastructures scolaires ainsi que de l'équipement en mobilier scolaire et autres matériels didactiques. C'est le cas de la politique « Pas d'école sans banc » dont l'objectif est d'éradiquer à terme, le spectacle désolant où des petits Quinois sont obligés de suivre le cours à même le sol.
Voilà, c'était le gouverneur de la ville-province de Kinshasa, André Kimbuta, qui parle de
son... l'amélioration des conditions d'études, et surtout dans les écoles primaires publiques, parce que, en fait, les cours se donnent dans des conditions vraiment qui laissent à désirer. Les élèves suivent les cours en même les sols. Les écoles sont dépourvues des toits parce qu'elles sont vraiment vieilles. Et les travaux de restauration n'ont pas suivi après les conditions de ces écoles-là. Donc, alors, le gouverneur table sur la restauration de ce secteur-là.
Voilà, et il a même affirmé que c'est là, dans son programme d'action, l'éducation, la réhabilitation des écoles occupe une place
très importante,
prépondérante. Alors, Tati, il est prévu aussi l'amélioration des conditions d'études dans les écoles primaires officielles de la capitale. Mais qu'est-ce qui serait fait exactement à l'Athénée d'Ingeringiri?
En fait, les ingénieurs chinois vont reconstruire totalement cette école, plus particulièrement EP2 et 3. Pour l'EP1 et 2, les travaux de reconstruction seront financés par le Fonds social pour la République. En ce qui concerne l'EP2 et 3, parce que les travaux sont déjà en cours, outre la construction des salles de classe et bureaux, il est prévu l'érection d'une bibliothèque, d'une salle informatique et des enseignants, des toilettes et vestiaires, une cour aménagée et un terrain de jeu. La dite école aura une capacité d'accueil de 1000 élèves, donc c'est une école qui sera construite conformément aux normes internationalement reconnues. Actuellement, à l'EP2 et 3, les ingénieurs chinois procèdent déjà à la reconstruction de la fondation parce que tout a été rasé pour être reconstruit dans 8 mois, je dis. Suivez le propos de M. Frédéric, l'interprète du conseiller économique et commercial à l'ambassade de Chine à ce sujet.
Et l'école primaire de Henri qui sera construite est l'un des 3 écoles primaires congolaises. Les 2 autres seront édifiées à Kisangani. Dès la fin de la construction de ce projet, cette école pourra remplir la condition principale d'enseignement. Elle sera utilisée immédiatement pour satisfaire les besoins des études des 1500. L'école d'Henri sera construite par la société de construction de Jiangsu, Chine. Ayant la puissance qu'elle est le grand de prestige, cette société a déjà pris en charge de la construction des projets aidés à titre gratuit par la Chine au Congo, comme l'hôpital Tengli. Cette société accomplira ce travail avec l'appui de l'ambassade Chine à la plus grande vitesse et en bonne qualité. Nous espérons que le gouvernement provincial et les services intéressés congolais puissent nous offrir autant que possible les facilités au cours de la construction de ce projet. Et maintenant, on a rencontré le problème, ça manque de ciment.
Voilà, maintenant il y a un problème, c'est le manque de ciment.
Mais ils sont déjà à l'œuvre, donc les ingénieurs chinois sont déjà à l'œuvre.
Oui.
Il a évoqué le problème de ciment.
Il risque d'être bloqué tant qu'il n'y aura pas de ciment.
C'est qu'a témoigné l'interprète.
Oui, alors la province orientale va également bénéficier de ce projet, mais les travaux se font en pleine année scolaire. Quelles sont les dispositions qui ont été prises par les autorités pour les élèves de cette école?
À en croire Madame Pia Dianga, Matondo, directrice à l'EP3 Ngiengiri, dès le début de cette année scolaire, tous les élèves ont été affectés dans les écoles officielles limitrophes. Mais cependant, elle souhaite avec ses collègues et enseignants que les travaux s'effacent au même moment dans l'ensemble de ces complexes parce que jusque-là, les travaux ont débuté que dans l'EP2 et 3. À l'EP1 et 2, les travaux proprement dit n'ont pas encore commencé. En outre, la directrice souhaite que les travaux s'effacent dans les délais prévus donc dans les 8 mois. Oui. Écoutons sa réaction.
Nous sommes ravis de cette présence du gouverneur dans notre école. C'était une rêve, maintenant c'est devenu une réalité. En tout cas, nous avons vu le gouverneur présent ici aujourd'hui. Ce vendredi 5 décembre 2008, il a posé la première pierre. En tout cas, nous sommes très contents. Cette école a été construite à l'année 1955. C'est une première école officielle. Il n'a jamais été réhabilité. C'était devenu une vieille école abîmée, en tout cas la toiture qui n'existait même pas. Les élèves étaient dans les conditions que même s'il y a la pluie qui menaçait, on doit faire sortir les enfants. La toiture était déclassée, le mur même déclassé, mais on étudiait dans ces conditions-là. Bon, pour les travaux qui s'effectuent ici à l'EP 1, 2, 3, 4, nous demandons aux autorités d'accélérer les travaux jusqu'au délai qu'on a donné de 6 mois. Hein? Comme ici, c'est les Chinois qui vont réfectionner, de l'autre côté, il paraît que c'est le fonds social. Nous demandons à nos autorités qu'on fasse la même chose de l'autre côté, parce que nous sommes même complexes au même moment. Parce que pour le moment, même les complexes là qu'on n'a pas réfectionné, les élèves n'étudient pas. Tous ils sont partis, ils sont affectés dans d'autres écoles. Nous voulons que nous reprenions ensemble au mois de septembre.
Voilà, vous êtes à travers le Congo, à Kisangani ou ailleurs. Vous connaissez des écoles qui sont en état de délabrement très avancé. Vous pouvez participer, témoigner en nous appelant au 081-890-6394. Vous avez la possibilité d'envoyer vos SMS au 081-0720-50. Tati, avant de nous quitter, est-ce que vous avez un autre commentaire par rapport à ça?
Tout à fait, je dis. En fait, presque toutes les écoles officielles de la capitale se trouvent dans un état d'élaborement très avancé, comme nous l'avions dit au tout début.
Oui.
La construction d'une école moderne à Ngiringiri est saluée par plus d'un habitant de cette commune. Mais cependant, il faut noter que cette commune n'a pas de route praticable. Le courant électrique est une énergie qui est vraiment de plus en plus rare dans ces quartiers. Et quelque part, qui nous avons contacté, nous avons tendu le micro sur place, salue l'initiative, mais cependant, il se demande s'il sera de nouveau en mesure d'envoyer les enfants dans cette école une fois reconstruite, parce qu'en fait, il se demande si le stress scolaire sera à la portée de toutes les familles.
Voilà, nous allons faire le point tout à l'heure avec notre invitée, Madame Thérèse Olenga, ministre provinciale de l'éducation. On saura si les prêts seront revus à la hausse ou pas. Mais cependant, les parents peuvent déjà nous appeler au 081-890-63-94. Ils pouvaient également nous écrire à l'adresse action@radiocapi.net. Merci beaucoup, merci pour toutes ces informations et à la prochaine.
Merci jeudi, à la fois prochaine.
Ryan B. Tuzer. Hey bro.
Nous allons à présent recevoir notre invitée. Il s'agit de Madame Thérèse Olenga, ministre provinciale de l'Éducation. Madame Thérèse, bonjour.
Oui, bonjour.
Merci d'avoir accepté de répondre à nos questions dans cette émission au Capi Action. Nous parlons aujourd'hui du lancement des travaux de construction de l'Athénée d'Ngiringiri. Nous savons que c'est le vendredi dernier que le gouverneur de la ville, André Kimbuta, a procédé au lancement des travaux de reconstruction de l'Athénée d'Ngiringiri, puis de la coopération RDC-Chine. Nous savons que les Chinois vont reconstruire 3 écoles ici en RDC, une à Kinshasa et 2 à Kisangani. Alors, quels sont les critères qui ont prévalu pourquoi vous avez porté votre choix à ces 3 écoles, une à Kinshasa et 2 à Kisangani?
Oh, c'est vous qui m'informez qu'il y en a 2 à Kisangani. Je dois vous dire, franchement, que cela s'est décidé au niveau de la présidence de la République. La Chine a un programme, et la Chine a voulu offrir des écoles à l'Afrique,
oui,
dont 3 écoles en RDC.
Mm-hmm.
Et donc, ça s'est traité au niveau de la présidence de la République.
Oui.
Et nous avons eu le bonheur d'avoir un courrier provenant de la présidence, parce que c'était un don. Je pense que c'était à la suite d'une visite des chefs de l'État en Chine, quelque chose comme ça.
Oui.
Et on nous dira, il y a 3 écoles à implanter en RDC et qui n'ont pas été ciblées, a été identifiées comme pouvant bénéficier d'une des écoles. Il nous fallait identifier un site pour cela. Et donc, nous avons identifié le site d'Ngiringiri. Voilà.
Oui.
Et ce n'est même pas les 2 autres. C'est dans quelle province vous m'informez que c'est qui s'en gagne, moi, je ne le savais pas.
Oui. Et pourquoi vous avez porté votre choix sur l'Athénée d'Ngiringiri?
Je vous assure que c'est difficile. Il y a tellement d'écoles en état de décrépitude qui demande intervention, mais vous savez, quand vous recherchez, bien vous avez sentir sur quelque chose et arrêter le choix.
Oui.
Et le hasard a voulu que lors d'une tournée de travail, comme nous assurons la gestion des proximités,
mm-hmm,
nous ayons un autre visité Ngiringiri qui était dans un état piteux. Et je sais qu'il y a eu des images qui ont choqué plus d'un, parce que c'était des images qui avaient été retransmises à la télévision. Et au cours d'un conseil des ministres, alors qu'il y avait plusieurs possibilités qu'on offrait, de façon à lever une option définitive, le chef du gouvernement provincial, j'allais dire, le gouverneur de la ville a dit, mais madame, je vous ai vu à la télévision en train de visiter une école où vous étiez en train de vous cogner la tête dans les toits et vous avez failli tomber. Pourquoi vous ne prenez pas ce site-là?
Oui.
Ah, nous avons dit, tiens, il s'agit de l'école primaire d'Ingiringir, et bien c'est bon, c'est un bon champ, on en a discuté en conseil, voilà. L'option est élevée.
Oui.
Voilà.
Et nous avons appris que c'est depuis 1955 que cette école n'a jamais été réhabilitée. Elle était dans
beaucoup d'autres écoles, malheureusement, à Kinshasa, non,
oui,
pas du tout réhabilitée. La maintenance, c'est peut-être une pratique que nous ne connaissons pas beaucoup, dont nous devrions nous battre pour que ces choses changent.
Alors, qu'est-ce que les travaux, qu'est-ce que les étudiants vont faire exactement? Est-ce qu'ils vont réhabiliter cette école de Ngiringiri?
Ce n'est pas une réhabilitation, c'est,
oui,
vraiment une construction.
Donc tout est raté aujourd'hui.
En profondeur, vous avez vu qu'on a dû, comment on dit, détruire tous les bâtiments. Oui. On a dû détruire tous les bâtiments qui étaient là et on refait vraiment une école moderne répondant aux normes, avec 6 salles de classe, avec des bureaux pour professeurs,
oui,
avec bibliothèque, avec salles informatiques, avec des dépendances où nous avons les toilettes, nous avons des vestiaires, un préau quand il pleut que les enfants puissent fabriquer. On a vraiment ce qu'il faut, tout ce que j'oublie, air de jeu pour aménager, etc. Tout ce qu'on n'a plus jamais réalisé. S'il vous plaît.
Oui. Alors, Madame Olenga, on a appris qu'il y a une partie, l'EP1 et EP2, qui est réhabilitée par le fonds social. Alors, comment ça se passe concrètement?
Non, ce n'est pas ça. C'est-à-dire que c'est un grand espace et les Chinois, ils interviennent juste sur 1/5 de l'espace.
Oui.
Et donc, à côté, il nous faut bien trouver d'autres partenaires pour pouvoir réhabiliter. Vous avez un grand, grand terrain. Des partenaires vous disent, avec les moyens que nous avons, nous voulons non seulement, ce que j'ai oublié de vous dire, non seulement reconstruire complètement, mais équiper aussi. Équiper en matériel didactique, etc. Et pour cela, voici notre budget. Mais cela ne peut pas prendre le 1/5 du terrain qui est vaste. Et donc, nous travaillons avec les Chinois sur le 1/5 et nous poursuivons les contacts avec les fonds sociaux aussi pour que les ressources sont disponibles,
oui,
de façon à pouvoir mobiliser l'apport local. Et avec cela, nous pourrions trouver d'autres partenaires pour pouvoir refaire vraiment le visage de tous les 1/5 de la superficie.
Oui, nous avons suivi tout à l'heure le propos de M. Frédéric, interprète du Conseil économique et commercial à l'ambassade de la Chine,
oui,
et qui déplore le fait que c'est bien, les travaux vont durer 8 mois, mais il y a un problème de ciment qui pourra peut-être se poser et qui pourra faire que ce projet ne puisse pas se terminer dans les délais.
Oui, c'est dommage que nous ayons ces difficultés d'approvisionnement en ciment, mais c'est une difficulté qui a été portée déjà à la connaissance du Conseil des ministres, et je vois que nous sommes en train de nous débattre pour pouvoir donner réponse à cela. C'est comme ça qu'il y a un comité de suivi du côté congolais. On nous a amené, c'est vrai, la construction d'une école moderne, mais nous avons aussi une part à apporter. On a réalisé quelques préalables, nous continuons à essayer de donner des réponses.
Oui.
Et je crois qu'en ce qui concerne la considération ciment, nous pourrions en tout cas faire face à cela. Ça ne devra pas nous arrêter parce que nous avons calculé le temps,
oui,
de façon à ce qu'à la rentrée prochaine, la rentrée 2009-2010, que l'école soit disponible pour réaccueillir les élèves. Voilà.
Oui, et maintenant que l'école est rasée, donc on suppose qu'il n'y a plus rien, et maintenant les élèves qui étudient là-bas.
Nous les avons recasés dans des écoles environnantes,
oui,
et le personnel est aussi recasé au niveau des bureaux, de nos bureaux gestionnaires, mais il y en a aussi qui suivent les travaux sur le terrain. De ce côté-là, nous avons pris les précautions, rassurantes. Voilà.
Okay. Alors, Madame Thérèse Olenga, est-ce qu'on peut avoir une idée sur le financement? Comment,
720 000 $.
$720 000
qu'ils mettent pour reconstruire cette école.
Oui.
C'est très important comme apport, avec des matériaux vraiment modernes. Nous allons avoir des classes spacieuses, bien aérées, bien éclairées, etc. Donc, les normes, comme on doit pouvoir les respecter.
Oui, donc le financement est de l'ordre des 720 000 $ américains.
Oui.
Alors, quelle est la part du gouvernement provincial dans tout ça? Quelle est la contribution du gouvernement provincial par rapport à
la contribution du gouvernement provincial, nous allons pouvoir la chiffrer, étant donné qu'on n'a pas encore terminé, nous n'avons pas fini notre inspiration.
Oui.
Cela a commencé, comme je vous ai dit, d'abord par des études topographiques. On a mené des études, on devait mettre, parce que vous savez qu'on vient conclure quelque chose, il y a des études qui devraient être menées. On a procédé à, comme je disais tout à l'heure, à la destruction de bâtisses en décrépitude. On aménage la voie d'accès,
oui,
on a payé les frais qu'il fallait pour qu'on ait la fourniture en eau sur les lieux. Il fallait une bonne, comment on dit, un bon transport et une bonne capacité d'électricité, d'énergie électrique,
oui,
par rapport aux engins qui vont être utilisés. Tout ça, ça a été la part du gouvernement, sans compter que les matériaux qui viennent de l'extérieur, ils vont bénéficier des facilités douanières qui vont être chiffrées aussi. Hein.
Oui.
Donc, l'exonération, etc., on va chiffrer et vous voyez que le gouvernement a eu aussi à intervenir et pour beaucoup, voilà.
Oui.
On a sur la sécurité, sur les lieux, etc., voilà.
Bon,
et
voilà.
Donc, une contribution qui peut être quand même appréciable.
Tout à fait. Ouais, nous avons suivi la directrice de l'école qui demande à ce que, lors de la rentrée scolaire l'année prochaine, que cela se fasse au même moment. Pourquoi ? Parce que l'Athénée est aujourd'hui rasée, il faut reconstruire, mais de l'autre côté, l'EP1 et l'EP2, les travaux n'ont pas encore démarré avec le fonds social. Est-ce qu'il sera possible d'harmoniser les choses de telle manière que la rentrée soit effective pour tout le monde ?
Je souhaite énormément que nous arrivions à harmoniser tout cela. Vous savez, comme ministre, ce que je voudrais, c'est recevoir autant de financements pour réhabiliter toutes ces écoles,
oui,
arriver dans des belles salles de théâtre, dans des cours bien entretenus, et que les enfants suivent les cours dans des bonnes conditions. Nous souhaitons cela et nous nous battons. Mais dans la mesure où cela ne pourra pas être possible,
oui,
nous recasons, comme nous l'avons fait, nous recasons les élèves ailleurs. Et je vais vous dire la vérité. La vérité sur le terrain, c'est que nous avions des salles de classe et les parents retiraient de plus en plus les enfants des salles de classe.
Mmh.
Donc la capacité d'accueil était tout à fait était faible. Aujourd'hui, nous espérons l'améliorer. Donc les quelques rares élèves qui se retrouvaient de manière disparate dans les salles de classe, nous allons pouvoir les récupérer de manière utile dans l'école qui va être réhabilitée et fournir des efforts de façon à ce que c'est EP1 et 2, n'est-ce pas, et puis il y a 3 et 4, donc on devra bien prendre tout cela en compte.
Oui.
Et le gouvernement, on attend les votes du budget, nous avons prévu aussi la construction des écoles, et nous verrons, je ne vais pas dire que nous levons le sein. Aujourd'hui, c'est vrai, le zoom est posé sur Ngiringiri, mais je vous assure, il faut se trouver dans la ville, il nous faut mobiliser énormément de moyens,
oui,
pour pouvoir répondre de manière efficace à ce besoin qui est pour moi un besoin vital, un besoin fondamental. On veut construire la nation, on doit passer par l'éducation qui est le socle.
Voilà, nous avons même suivi au cours du reportage présenté par notre confrère Fatima Koukou, des parents qui craignent un peu, qui se demandent est-ce que les frais scolaires à payer pour leurs enfants seront réduits à la hausse, parce qu'avec cette réhabilitation, l'école aura des beaux bâtiments, des livres,
monsieur,
tout ça.
Réduit à la hausse tout simplement parce qu'on réhabilite l'école, mais non, pas du tout. Parce que la politique déjà du gouvernement, le gouvernement en général, de par la volonté du chef de l'État, qui a ciblé l'éducation comme un des chantiers importants, n'est-ce pas, un des chantiers prioritaires.
Oui.
La politique qui nous est commandée par les objectifs du millénaire pour le développement, l'éducation pour tous, nous amène à revoir le taux de scolarité plutôt à la baisse, et un effort est engagé dans ce sens-là. C'est comme ça que vous verrez, sans vouloir vraiment faire de la discrimination, nous mettons un point d'honneur à réhabiliter les écoles publiques qui dépendent essentiellement de l'État, et là il n'y a aucune raison, parce qu'on a donné les conditions adéquates, d'augmenter les prix. Ah, parce que l'obligation, oui, doit être que l'environnement doit être sain et les enfants doivent pouvoir étudier dans des conditions saines. Et ce n'est pas une matière commerciale. On doit dire qu'on a amélioré l'environnement et il nous faut payer pour cela. Non, bien au contraire, ça restera des écoles publiques soumises aux mêmes règles, et l'effort doit pouvoir être fait par les uns et les autres de façon à ce que nous puissions protéger, comment on dit, cet environnement.
Oui, Madame Thérèse Olenga, nous savons que beaucoup de personnes soutiennent l'idée de la gratuité de l'enseignement primaire. Aujourd'hui, c'est encore un rêve, hein, ça prendra encore beaucoup de temps pour que ce rêve devienne réalité dans notre pays.
Vous savez, nous devons faire l'évaluation en 2015, et je puis vous assurer que chaque jour qui passe, nous faisons tous les scénarios possibles. Nous simulons toutes les possibilités qui peuvent se présenter pour que nous puissions réaliser cette gratuité. Quand on parle de gratuité, il faut nous dire la vérité. Gratuité, c'est-à-dire gratuité de la part des parents. Mais il faudra bien que quelqu'un prenne la facture. Il faut bien que quelqu'un soutienne cette facture, parce que organiser l'éducation, ça coûte énormément cher. Et dans des pays développés et ailleurs, nous savons ce que ça coûte en termes d'éducation. Ici, évidemment, le contexte socio-culturel fait que nous devrions apporter un appui aux parents. Et quand on dit qu'il s'agit de la gratuité, oui, les gratuités entendues en termes d'alléger les parents, mais quelqu'un paiera cette facture, et c'est quelqu'un, ça pourrait être l'État qui paiera la facture, et je vous assure, ce n'est pas facile à réaliser, mais c'est un objectif, parce que notre constitution a été adoptée ainsi. Nous sommes tenus de réfléchir, de recourir à l'ingéniosité voulue, de façon à pouvoir répondre à cela.
Oui, Madame Thérèse Olinga, parlons un peu de votre politique, de la politique du gouvernement provincial, pas d'école sans banc. Où en êtes-vous aujourd'hui? Ça évolue,
oui,
très bien.
C'est dommage parce que là, vous me prenez, je suis en pleine conférence ici. J'aurais pu vous donner tous les éléments par rapport à ceci. Il y a des choses qui sont en train de se faire,
oui,
mais les besoins sont énormes. Les besoins sont énormes. On n'est pas encore réussi à répondre à tout. On ne réussira peut-être pas d'ici demain à répondre à ces besoins, mais au moins à la fin de notre mandat, si Dieu nous prête vie et si Dieu nous prête sa grâce, nous voudrions plutôt que ça soit un phénomène rare que de trouver les enfants assis à même le sol suivant les cours. On devra réduire cela à 85%. Il faut à 85% qu'on trouve des écoles, et si nous pouvons à 90%, si nous ne pouvons à 95%, pourquoi pas 99% qu'il n'y ait plus jamais, pourquoi pas 100% qu'il n'y ait plus jamais les enfants suivant les cours à même les sols. Donc, les moyens que nous avons, nous les mobilisons pour la production des bancs,
oui,
et ça c'est un appel que je lance aussi à tous les autres partenaires qui sont de plus en plus nombreux à venir nous rejoindre.
Ah, je viendrai chez vous
faire une évaluation de cette action, mais aussi en termes de réhabilitation des écoles. Je vous donnerai et les nombres et les noms des écoles et les quantités de bancs qui ont été produits. Je vous ferai parvenir peut-être demain le répertoire parce que nous l'avons.
Oui.
Vous verrez qu'il y a vraiment des gros efforts qui sont fournis, mais les besoins sont énormes. Parce qu'on a laissé pourrir la situation pendant de longues années. On a commencé à croire que c'était normal d'enseigner nos enfants de cette manière-là, sans oublier qu'une éducation forme l'homme de manière intégrale. Et donc, même à cet enfant, il faut que l'enfant comprenne que c'est anormal de suivre les cours assis à même le sol.
Oui.
Parce que l'enfant doit apprendre aussi que c'est un être digne, et un être digne a droit à des égards, et un être qui a droit à des égards vit dans certaines conditions acceptables.
Voilà, Madame Thérèse Olinga, nous rappelons que vous êtes ministre provincial de l'Éducation. Nous allons revenir prochainement sur ces sujets pour faire le point sur la politique pas d'école sans banc. Mais pour l'instant, on s'arrête là. Merci d'avoir accepté d'intervenir dans cette émission et à la prochaine.
C'est moi qui vous remercie. Merci, bonne journée.